Le rendez-vous scientifique.
Bonjour, c'est Patrick pour l'interview scientifique. Aujourd'hui, on va parler des civilisations anciennes qui ont marqué le monde. Le terme civilisation dérive du latin civitas, qui signifie la ville. Le terme civilisation apparaît pour la première fois dans les textes au XVIIIe siècle, dans le contexte des Lumières. Ce terme a été introduit pour marquer l'opposition à la barbarie. C'est donc un passage à un état plus moral et plus social. Mirabeau, révolutionnaire et homme politique français, l'utilise vers 1756. Quant à Turgot, un autre homme politique et économiste français, il le démocratise largement dans les années 1760-1770. À partir du XIXe siècle, le terme prend un sens plus large et désigne l'ensemble des caractéristiques culturelles, sociales, politiques et techniques d'une société.
Donc le terme civilisation s'oppose dans un premier temps à la barbarie, puis devient proche du terme culturel d'aujourd'hui.
En effet, dans son sens premier, la civilisation désigne l'état d'avancement des conditions de vie, de mœurs, d'une société. Il y a malheureusement beaucoup de contre-exemples, comme par exemple le racisme, les crimes ou encore la torture. Dans son second sens, la civilisation est l'ensemble des caractéristiques spécifiques à une société, une région, un peuple, une nation, dans tous les domaines sociaux, religieux, moraux, politiques, artistiques, intellectuels, scientifiques ou encore techniques. Une autre caractéristique très importante est que la civilisation se transmet socialement de génération en génération.
Pour en revenir à l'intitulé de cette interview, y a-t-il beaucoup de civilisations anciennes qui nous ont influencés ?
Oui, et on ne peut évidemment pas toutes les citer, mais voici, à mon avis, les principales. Chacune d'elles va nous transmettre certaines de leurs valeurs. Citons par exemple la civilisation sumérienne, la civilisation égyptienne, l'Indus, la civilisation phénicienne, la civilisation perse, les Hébreux, l'Empire grec, l'Empire romain, la civilisation celtique, l'Inde classique et la civilisation chinoise.
La civilisation sumérienne est particulièrement ancienne. Que lui doit-on ?
En effet, cette civilisation est très ancienne. Pour bien comprendre, on parle ici de la Mésopotamie entre 10 000 et 2 000 ans avant Jésus-Christ. Le terme Mésopotamie signifie « terre entre deux fleuves », les deux fleuves étant le Tigre et l'Euphrate. Pour fixer un peu plus les idées, la Mésopotamie correspond pour une grande partie à l'Irak actuel. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, les Sapiens, que l'on appelle alors les chasseurs-cueilleurs, ont migré dans cette région particulièrement fertile, nommée le croissant fertile. Il y a environ 12 000 ans, les chasseurs-cueilleurs commencent à cultiver des champs, essentiellement du blé et de l'orge. Ils ont compris que ces céréales ont des graines qui peuvent se ressemer. À partir de ce moment, où il y a de l'agriculture et des récoltes, les sapiens ne peuvent plus migrer et se sédentarisent. Ils créent les premiers villages, puis commencent à domestiquer dans un premier temps le mouton, la chèvre et ensuite le bœuf. Vers 8000 ans avant Jésus-Christ, les villages grandissent et les premières villes apparaissent. La plus ancienne ville connue est Jéricho, située en Cisjordanie près de Jérusalem. La sédentarisation entraîne une surexploitation des ressources. Il est alors nécessaire de trouver d'autres terres fertiles. Ce sont les premiers affrontements pour s'emparer de terres occupées par d'autres. Des guerriers doivent protéger les villages et les villes des envahisseurs. Une hiérarchisation sociale s'impose pour prendre des décisions. Vers 6250 avant Jésus-Christ, de grandes villes apparaissent, comme Çatal Öyük en Anatolie, située actuellement en Turquie. C'est une ville importante de 6000 habitants. Cette ville montre une avancée majeure en architecture. Les maisons sont en briques et les toits en terrasses. Vers 3500 ans avant Jésus-Christ, des Sémites s'installent progressivement en Mésopotamie, Sem étant le premier fils de Noé. On va principalement trouver les Acadiens de Akkad, rien à voir avec les Canadiens, qui vont cohabiter avec les Sommériens. Les villes continuent d'évoluer et se transforment en cités-états. On va en trouver une trentaine dans le pays de Sommer, qui se trouve dans le sud de la Mésopotamie. La plus ancienne et la plus importante cité-état est Ur, en Irak. La roue est une invention importante qui va révolutionner tous les domaines. Celle-ci apparaît au Néolithique dans la région de Sommer vers 3500 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, c'est la naissance de la guerre et de la royauté. Vers 3300 ans avant Jésus-Christ, l'ingénieux système des calculis est inventé. Ce sont des jetons d'argile enfermés dans un vase scellé, utilisés pour la comptabilité, comptage du bétail et autres denrées. Le système des calculis est ensuite amélioré. C'est l'invention de l'écriture par pictogramme, où l'on vient pointer avec un stylet, le kalam, dans une tablette d'argile. Les pictogrammes étant limités en nombre, très vite apparaît l'écriture cunéiforme, plus riche, où l'on dessine des signes. Au niveau du calcul, le besoin d'un système de comptage amélioré est nécessaire. C'est l'invention du système sexagésimal. C'est un compromis entre la base 10, que l'on connaît, et la base 60. On compte par 1, 10, 60, 600, 3600.
Une autre civilisation marquante est la civilisation égyptienne. On l'a beaucoup étudiée au collège. C'est vrai qu'elle est marquante.
En effet, c'est vers 3500 ans avant Jésus-Christ qu'a émergé la civilisation égyptienne. Cette civilisation s'est établie autour du Nil et de ses plaines fertiles.
Et comment est-elle organisée ?
D'un point de vue politique, l'Égypte est dirigée par un pharaon qui est un roi unique avec une forte personnalité et un peuple très dévoué. Une administration solide gère le pays de la Haute à la Basse Égypte. La Basse Égypte correspond au nord du pays, c'est-à-dire au delta du Nil. La Haute Égypte se situe dans le sud du pays, du Caire jusqu'à Assouan, en suivant la vallée du Nil. L'Égypte pharaonique va réussir à réunir la Basse et la Haute Égypte.
Qu'en est-il des esclaves ?
En Égypte ancienne, la question des esclaves est souvent mal comprise. Par exemple, les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves enchaînés et fouettés. Ce sont surtout des paysans qui faisaient les grands travaux et travaillaient pour l'État quand les champs étaient inondés par les crues du Nil. Ils étaient logés, nourris et payés. Cette corvée était néanmoins obligatoire. Les esclaves, quant à eux, étaient des prisonniers de guerre ou des personnes achetées à l'étranger. Ils travaillaient comme domestiques, ouvriers ou encore comme serviteurs dans les temples.
L'Égypte ancienne avait-elle un rayonnement important ?
On connaît tous les œuvres construites durant cette période, comme les pyramides, les temples ou encore des monuments et des statues gigantesques. Il faut rappeler que Pharaon a un rôle particulier. Il est installé sur son trône par les dieux. Le pharaon confie la gestion de ses terres à des fermiers. Après la récolte, des scribes fonctionnaires prélèvent la part de Pharaon.
On connaît l'Égypte ancienne pour son écriture en hiéroglyphes. Est-ce une évolution de l'écriture cunéiforme des Sumériens ?
Non, les deux écritures ont des origines différentes. Les hiéroglyphes égyptiens sont apparus en Égypte à peu près à la même époque, vers 3300 ans avant Jésus-Christ. Les hiéroglyphes sont des signes figuratifs, personnes, animaux, objets, qui sont gravés sur la pierre ou écrits sur le papyrus. L'usage est très vite réservé pour le sacré. Les hiéroglyphes sont très beaux, mais difficiles et lents à écrire et restent réservés aux prêtres. Vers 3150 avant Jésus-Christ, Les scribes vont utiliser une version simplifiée des hiéroglyphes que l'on appelle le hiératique. Vers 650 avant Jésus-Christ, il y a une évolution vers le démotique qui est une écriture cursive plus adaptée aux scribes. Par exemple, la pierre de Rosette est écrite avec trois écritures différentes, avec les hiéroglyphes, le démotique et le grec ancien. C'est le grec ancien qui a permis à l'égyptologue Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822.
On connaît un peu mieux les pharaons, mais qu'en est-il des fameuses momies ?
En Égypte ancienne, il y a une croyance en la vie éternelle et en une multitude de dieux, et plus particulièrement pour les pharaons, leurs familles et les grands prêtres. On pratique la momification. C'est une technique qui utilise du sel de sodium, de la résine et des bandelettes de lin. Une ouverture au niveau de la bouche donnait l'opportunité de pouvoir manger et boire.
Qu'en est-il de l'art égyptien ?
En Égypte ancienne, les dieux sont statufiés en bois, bronze, pierre ou encore en or. Au niveau littéraire, différents genres apparaissent comme les romans, les poèmes lyriques ou encore les traités scientifiques. On connaît tous l'architecture égyptienne avec ses monuments et pyramides. De plus, les artistes savaient créer des bijoux raffinés. Vers 2500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient un calendrier solaire basé sur une année de 365 jours et fonction des crues du Nil, qui apparaissaient toujours à peu près au même moment. La prévision était faite en observant les étoiles, et plus particulièrement Sirius. Le lever de Sirius annonçait généralement le début de la saison des crues.
Comment s'est produite la décadence de l'Égypte ancienne ?
Le début du déclin se situe vers 1070 avant Jésus-Christ et va durer une longue période. À cette époque, le pouvoir royal est affaibli. Les pharaons perdent de leur autorité face aux prêtres. Le pays se divise entre le nord et le sud. Il y a des crises économiques et sociales importantes. Les temples et les armées coûtent très cher. Le pays est moins conquérant, donc il y a moins de richesses pour le pays. L'Égypte est envahie et ou dominée par de nombreux peuples comme les Libyens, les Nubiens, les Assyriens, les Perses ou encore les Grecs avec Alexandre le Grand. Cette perte d'indépendance s'achève par la domination romaine en 32 avant Jésus-Christ.
Sur une telle période, il y a dû avoir un grand nombre de pharaons, non ?
Oui, en effet, on ne compte pas moins de 33 dynasties de pharaons. Les plus célèbres sont Cléopâtre VII, c'est le dernier pharaon qui tente de bloquer les Romains entre moins 51 et moins 30. Ramsès III, c'est le dernier grand pharaon entre moins 1186 et moins 1148. Ramsès II est très prolifique. Il érige de nombreux temples et statues entre moins 1279 et moins 1213. Toutankhamon va restaurer la capitale à Thèbes entre 1319 et moins 1309. Akhenaton va interdire le culte des anciens dieux. Il se situe entre moins 1352 et moins 1336. Amenhotep III est très prolifique, stable et prospère, entre 1390 et 1352. Hatshepsut est connue pour un règne sur une longue période de paix, entre 1478 et moins 1458. Khéops a construit la grande pyramide de Gizeh, entre moins 2551 et moins 2528. Djoser est le premier à vivre dans la capitale Memphis, sur la rive ouest du delta du Nil. Il est connu pour sa statue entre moins 2665 et moins 2645.
Une autre civilisation importante est la civilisation Indus. En quoi cette civilisation est-elle intéressante ?
L'Indus est intéressante à plusieurs titres. Comme on va le voir, c'est toujours un mystère. C'est avant tout une très ancienne civilisation dans l'actuel Pakistan qui a existé il y a plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est une culture toujours mystérieuse à ce jour. On ne sait rien sur son système politique ou religieux. C'est une civilisation urbaine et très commerçante. Les ruines actuelles montrent que les villes sont construites en briques de qualité, toujours selon le même plan. On trouve une ville haute, à usage collectif, et une ville basse, plutôt résidentielle. On a retrouvé des réseaux de distribution d'eau et des dispositifs d'évacuation des eaux usées. L'Indus semble être une civilisation particulièrement évoluée pour l'époque.
Mais pourquoi l'Indus est-elle un mystère ?
L'Indus reste un mystère pour plusieurs raisons. Les scientifiques ont trouvé une écriture indéchiffrée à ce jour de 400 signes. Nous n'avons aucune idée du langage utilisé par le peuple Indus. Même l'origine des Indusiens reste inconnue à ce jour. Et pour ajouter un peu de mystère, la civilisation disparaît mystérieusement vers 1800 avant Jésus-Christ. Des études récentes supposent que le pays a souffert à cette époque de très nombreuses sécheresses et donc d'un manque d'eau important, ce qui aurait contribué à la disparition de cette civilisation.
Parmi les anciennes civilisations, on parle également des Phéniciens.
La civilisation phénicienne est une autre civilisation intéressante. Cette civilisation a perduré de 1200 à 300 avant Jésus-Christ. Les Phéniciens sont un peuple sémite issu des Canaéens. Pour fixer les idées, le pays de Canaan correspond approximativement au territoire actuel d'Israël, du Liban, de l'Ouest, de la Jordanie et de la Syrie. La Phénicie correspond au Liban d'aujourd'hui. La Phénicie était composée d'États indépendants autour de grandes cités comme Tyr, Sidon ou encore Byblos.
Que nous ont apporté les Phéniciens ?
Les Phéniciens nous ont apporté une culture marchande et maritime. C'est un peuple composé de marins chevronnés. C'était d'excellents navigateurs. Comme ils avaient en plus le sens du commerce, ils ont établi de nombreux comptoirs vers 1200 avant Jésus-Christ. L'un des plus connus est Carthage, en 814 avant Jésus-Christ, ville tunisienne située aujourd'hui au nord-est de Tunis. Les Phéniciens sont à l'origine de notre alphabet, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ils définissent une écriture à partir d'un alphabet sans voyelles, de 22 consonnes, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Cet alphabet est à l'origine des alphabets hébreux, araméens et grecs.
Un autre empire très connu est l'empire perse, et quand on parle d'empire, on pense à une entité politique expansionniste.
En effet, c'est vraiment le cas pour les Perses. La Perse aujourd'hui, l'Iran, est un empire qui s'étend de 556 à 330 avant Jésus-Christ. L'empire est dominé par la dynastie des Achéménides. Un immense empire de type impérial est créé par les conquêtes de Cyrus. L'armée est la principale préoccupation des Achéménides. Les différentes conquêtes permettent de s'enrichir et de prospérer. À son apogée, l'empire perse s'étend de l'Inde à la Méditerranée.
Quels sont les aspects originaux de l'empire perse ?
Il y a plusieurs aspects étonnants chez les Perses. Tout d'abord, il n'y a pas de cadre rigide au niveau de la religion. Chacun peut avoir sa propre croyance. D'autre part, la Perse établit, curieusement, de bonnes relations avec les peuples dominés. Cyrus II va libérer les exilés judéens et autoriser leur retour à Jérusalem en 539 avant Jésus-Christ.
D'un point de vue culturel, quel est l'apport des Perses ?
La Perse est réputée pour ses grands travaux, par exemple à Pasargadès, Persépolis ou encore Suse. Les Perses y ont construit des palais monumentaux, des jardins paradisiaques comme à Pasargadès, qui est situé dans une région semi-aride. Ces jardins étaient alimentés par des canaux et des barrages.
Comment disparaît au final, l'Empire perse ?
La taille énorme de l'Empire perse, de l'Inde à la Méditerranée, le rend difficile à contrôler et vulnérable. C'est Alexandre le Grand, en 330 avant Jésus-Christ, qui lance une campagne foudroyante sur les grandes capitales. Babylone, Suse ou encore Persépolis vont tomber les unes après les autres. L'Empire est réduit à néant.
Une autre civilisation est celle des Hébreux.
Les Hébreux sont une population autochtone, c'est-à-dire des groupes liés à leur terre ancestrale. D'après la Bible, leur origine est Canaan, une grande région qui géographiquement correspond au Liban, l'ouest de la Syrie, Israël et l'ouest de la Jordanie.
Quel est l'élément fondateur de cette civilisation ?
L'Exode est l'élément fondateur des Hébreux. La famille de Jacob quitte Canaan pour l'Égypte à cause d'une famine particulièrement importante. Ceci se produit à l'époque de son fils Joseph, vers 1700 avant Jésus-Christ. La migration inverse de l'Égypte vers la Terre promise a lieu lors de l'Exode sous la conduite de Moïse vers 1250 ou 1450 avant Jésus-Christ. Les Hébreux sont autorisés à quitter l'Égypte après les 10 plaies d'Égypte.
Quel est l'apport majeur des Hébreux ?
Tout d'abord, avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'après le retour, la terre promise est séparée en deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Il existe 12 tribus réparties dans ces deux royaumes. L'unité va être renforcée par le culte autour du temple unique. C'est le temple de Salomon vers 950 avant Jésus-Christ. La population sera déportée par les Assyriens, puis les Babyloniens. Le royaume d'Israël disparaît en 722 avant Jésus-Christ et le royaume de Juda en 586 avant Jésus-Christ. Les déportés du royaume de Juda sont de retour de Perse, libérés par Cyrus II. Et pour revenir à la question initiale, Yahvé, Dieu d'Israël, devient le Dieu unique. C'est la naissance du judaïsme et du monothéisme vers 538 avant Jésus-Christ. Donc le grand apport des Hébreux est le monothéisme.
Une autre grande civilisation est l'Empire grec. À quelle époque cet empire s'est développé et pourquoi est-il important ?
Les cités grecques vont se développer autour de la mer Égée et dans tout le bassin méditerranéen oriental, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Son importance est liée au fait que cette civilisation va devenir le berceau du monde moderne.
Que doit-on à cette civilisation ?
L'héritage de la civilisation grecque est considérable. Citons par exemple l'alphabet grec, dérivé du phénicien, et le plus ancien alphabet avec voyelles. Dans les alphabets sémites, il n'y a pas de voyelles. L'éducation, également, a une place importante, avec l'enseignement de l'éloquence et de l'écriture. Les Grecs maîtrisent les arts. Les plus grands philosophes anciens sont grecs, avec par exemple Socrate, Platon ou encore Aristote. Les savants ne sont pas en reste, que ce soit en mathématiques, en géométrie ou encore en médecine. Hippocrate peut être considéré comme le père de la médecine moderne. Avant Hippocrate, la médecine était le résultat d'une intervention divine. Hippocrate définit l'éthique médicale avec le fameux serment d'Hippocrate.
Après les Grecs, naturellement, on pense aux Romains.
Effectivement, l'Empire romain est majeur dans les civilisations anciennes. Les étapes de l'histoire de Rome peuvent se résumer en 5 étapes. La Rome antique est un regroupement de villages au 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle est fondée en 753 avant Jésus-Christ par les jumeaux Romulus et Rémus. Puis vient la monarchie de 753 à 509 avant Jésus-Christ. La République romaine de 509 à 27 avant Jésus-Christ, suivie par l'Empire de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Ensuite, c'est le déclin de l'Empire romain lié à un effondrement budgétaire, à une expansion germanique.
Quels sont les apports politiques de chacune de ces étapes ?
Sous la monarchie romaine, il y a la fondation des institutions politiques et religieuses. Les curies ou assemblées, Le Sénat est l'assemblée qui conseille le roi. L'ensemble des curies sont les comices curiates et sont sous-divisés en 30 curies. Sous la République, le pouvoir appartient au Sénat et au peuple romain. Rome fait la conquête de tout le bassin méditerranéen. L'armée est composée de soldats professionnels de 17 à 60 ans.
Quels sont les apports architecturaux majeurs de cette civilisation romaine ?
Les grands apports de la civilisation romaine sont surtout liés à l'eau. Les Romains ont construit de nombreux et impressionnants aqueducs. Le premier aqueduc à Rome date de 312 avant Jésus-Christ. C'est la Via Appia. Des canaux souterrains amènent l'eau jusqu'à Tivoli, situé à 44 km de Rome. Rome disposait de 11 grands aqueducs alimentant des réservoirs, jusqu'à 91 km de distance. En Europe, on peut citer des aqueducs remarquables. Par exemple, en France, l'aqueduc du Pont du Gard, et en Espagne, l'aqueduc de Ségovie. À Rome, la culture de l'eau est impressionnante. Des réseaux de plomberies sont installés sous la chaussée. Les maisons pouvaient posséder des latrines. Des égouts évacuaient les eaux usées. Les thermes étaient également répandus.
Encore plus près de nous, il y a les Celtes. Qu'est-ce que la civilisation celte ?
La civilisation celtique s'est développée entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un monde hétérogène, composé de différents peuples alliés ou rivaux. Par contre, il y a une unité culturelle. Le foyer celte initial se situe en Europe centrale, en Bohême. Il va progressivement s'étendre en Europe. Les Bretons, par exemple, vont coloniser les îles britanniques. Les Galates vont coloniser la Turquie. Les Gaulois vont coloniser la France. Et les Celtibères vont coloniser l'Espagne.
Et que nous ont apporté les Celtes ?
Les Celtes sont des artisans de qualité. Ce sont des experts dans la métallurgie du fer et la fabrication d'outils et d'armes. Ils savent extraire le sel, l'or, le cuivre et l'étain. Au niveau culturel, les Celtes nous ont laissé le gaélique, le gallois et le breton, langues apparentées au celtique ancien parlé aujourd'hui par environ 2 millions de personnes. Les Celtes ont également inventé le tonneau cerclé de fer.
On a parlé des Celtes, des Romains, des Grecs, mais l'Inde classique est également une grande civilisation. Quels sont ses apports ?
Alors, en quelques mots, l'Inde dite classique s'épanouit entre 1500 avant Jésus-Christ et 1000 après Jésus-Christ. Les nobles de cette civilisation créent une société très hiérarchisée. Ce sont les castes qui seront abolies en 1950, mais perdurent encore aujourd'hui. On doit au système de castes une très forte intégration des différents peuples qui pénètrent en Inde, quelle que soit leur origine et leurs croyances. Les Indiens développent largement l'hindouisme, le bouddhisme étant quant à lui très minoritaire.
Et pour terminer, on peut parler de la civilisation chinoise ?
Oui, la civilisation chinoise ancienne s'étend du 2e siècle avant Jésus-Christ à 1911. Cette civilisation se caractérise surtout par une avancée technique sans égale. On peut citer le travail de la soie avec 3 millénaires d'exclusivité. La technique de la soie était un secret très bien gardé. Citons également le harnais de poitrail, la manivelle, le papier, la brouette, le gouvernail articulé, la roue hydraulique, la boussole, la poudre à canon ou encore l'imprimerie.
Eh bien, merci et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous scientifique.
Avec plaisir.